Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui un nouvel épisode de la vie de Jacques Chirac, tiré du tome 1 de ses mémoires, publié chez Nil. Je vous ai déjà raconté son enfance pendant la guerre. Aujourd'hui, nous allons le suivre de son admission à l'ENA jusqu'à son entrée en politique. En passant par un épisode que sans doute beaucoup d'entre vous ignorent, sa guerre d'Algérie. Car Chirac a fait l'Algérie comme soldat. Et pour le débrief tout à l'heure, je ferai appel à son éditeur, celui avec lequel il a écrit ses mémoires. Bonjour Jean-Luc Barré.
Bonjour.
Voici donc Chirac de l'ENA au gouvernement de la France. La réalisation est de Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la raconte sur Europe 1.
Résumé de l'épisode précédent. Après avoir passé la guerre dans le sud de la France, au Rayol, près de Toulon, les Chirac reviennent à Paris. Et le jeune Chirac passe son bac et pour fêter ça, il s'embarque sur un bateau pour l'Algérie où il perd son pucelage dans un bordel de la Casbah d'Alger. Et à son retour en métropole, il s'inscrit à Sciences Po où il fait la connaissance de Bernadette Chaudron de Courcelles. Et puis à l'été 1953, il part en voyage aux États-Unis. Au mois de novembre 1953, le jeune Chirac est encore aux États-Unis. Et là, il reçoit un télégramme de son père. Reçu aux écrits de l'École nationale d'administration, stop. Prière de rentrer en France pour passer l'oral, stop. Fini la galéjade. Et voilà donc le jeune Jacques devant le jury du grand oral de l'ENA. Grippé. Dites-moi, jeune homme, pouvez-vous nous parler de Bayreuth ? Ah, monsieur le président, je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout musicien, hein. Interrogez-moi sur l'archéologie, la peinture, la sculpture ou la poésie, oui, mais sur la musique. Et puis arrive une dernière question. On se réfère, monsieur, souvent à la philosophie d'un médecin de l'Antiquité. Vous voyez qui je veux dire, monsieur Chirac ? Oui ? Vous voulez parler d'hypocrite ? Éclat de rire général. Il a dit hypocrite au lieu d'Hippocrate. Mais il est quand même reçu. Il entre à l'ENA. Mais avant d'y aller, il lui reste une formalité à accomplir, le service militaire. On est en 1954. Chirac part d'abord faire son apprentissage d'officier au 11e régiment de chasseurs d'Afrique à La Chaîne, en RFA. Et puis, éclatent les événements d'Algérie. Cette guerre qui ne veut pas encore dire son nom. Jacques Chirac veut y aller. Mais avant de partir, il décide de se marier avec Bernadette Chaudron de Courcelles, dont il a fait la connaissance sur les bancs de Sciences Po. Les épousailles ont lieu à l'église Sainte-Clotilde de Paris le 16 mars 1956. Et après, pas de lune de miel, hein. Il faut partir pour l'Algérie. Sauf qu'au dernier moment, changement de cap, comme le jeune Chirac parle russe, on l'affecte à l'état-major français à Berlin. Il est abasourdi. Il va voir son colonel. Mon colonel, en temps de guerre, je ne peux pas accepter un poste aussi confortable et protégé. Je me permets d'insister. Je veux partir en Algérie. Tu veux partir en Algérie ? Eh bien d'accord, tu pars. Et donc, Jacques Chirac débarque à Oran le 13 avril 1956. Il est officier. Il prend donc la tête d'un peloton de 23 hommes. Et il part à Soulé-l'Arba, en pleine montagne, près de la frontière marocaine, avec pour mission de protéger les habitants. Et donc, ils patrouillent la nuit, ils protègent les moissons, ils ouvrent des routes, ils escortent le ravitaillement, ils fouillent des grottes, et ils arrêtent des suspects qu'ils ramènent à leur cantonnement. Chirac jure qu'il n'a jamais assisté à quelque torture que ce soit. Mais il ajoute, ça ne veut pas dire que de telles pratiques n'aient pas existé. « Un jour, un jeune Algérien de 14 ou 15 ans saute sur une mine devant lui. Chirac se précipite, il croit qu'il est indemne, il ne saigne pas. Il le prend dans ses bras, il ouvre sa chemise, et là il découvre un petit trou rouge. Un éclat s'est logé dans son cœur. Le gamin ferme les yeux, dans ses bras, et son corps devient plus lourd. Il est mort. Quand Chirac quitte l'Algérie et rentre à Paris après son service, on est en 1957. La 4e République vit ses derniers mois. Et elle ne lui fait pas beaucoup envie. Au fond de lui, s'il s'écoutait, il y retournerait. Il repartirait dans le Djebel. Mais il n'est pas le seul à décider. Il y a Bernadette. Et puis il y a Léna. Quand il rentre d'Algérie, le jeune Chirac est frappé par l'état de la France. Son effondrement moral, politique et administratif. La 4e République est finissante, il n'est pas sûr du tout de vouloir passer sa vie à servir cet État qu'il ne juge pas digne de ce nom. Sans compter les professeurs de l'ENA qui lui expliquent que le redressement économique de la France est impossible. Des défaitistes. Il est un peu découragé, notre Chirac. Et puis là-dessus, le général de Gaulle reprend les rênes du pays. En 6 semaines, la balance des paiements est à nouveau à l'équilibre. Ah, ça va mieux. Chirac en conclut qu'il faut se méfier des technocrates et des économistes. La France se redresse, contrairement aux prévisions défaitistes. Dès son entrée à l'ENA, Chirac fait son premier stage à la préfecture de Toulon, où il est accueilli par le préfet Abel que tout le monde appelle Bibiz, parce qu'il embrasse à tour de bras. Écoutez Chirac, c'est très simple. Moi qui vous parle, j'ai fait une carrière que l'on peut qualifier de brillante. Je ne doute pas que vous fassiez la même, à condition de commencer par accepter, comme je l'ai fait, les tâches les plus modestes. Votre premier travail sera donc de porter des plis que je vous donnerai à leur destinataire. Ça dure 2 jours. Et le troisième, Chirac découvre qu'en donnant le pli à l'huissier, l'autre livre le pli aussi bien que lui. Et du coup, pendant 6 mois de stage, il s'ennuie. Il écoute la radio, il suit le lancement du premier Spoutnik par les Russes, le premier vaisseau extraterrestre.
Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Spoutnik a fait recette et des affiches préparent déjà les moscovites au futur voyage dans la Lune.
Il s'ennuie, mais consolation, c'est là, à Grenoble, qu'il découvre l'agriculture. Il se lie d'amitié avec un dirigeant syndical et il pond un rapport de stage sur le développement économique de l'Isère alpestre, qui lui vaudra la plus mauvaise note de sa promo. Son stage à la préfecture ne lui a pas plu du tout. Et il n'a plus du tout envie d'être fonctionnaire. Quand il rentre à Paris, il ne pense qu'à une seule chose, se réengager dans l'armée. Mais il y a Bernadette.
Bon, enfin non. Nous venons d'avoir une petite fille, Jacques. Laurence a besoin de nous. L'armée. Il faut terminer ce parcours à l'ENA, Jacques.
Il n'a pas le choix. Et pourtant, quand il arrive à l'ENA, début 1958, à la manière, dit-il, d'une boule qui rase les quilles, il trouve l'atmosphère étouffante. L'esprit de compétition, la lutte au couteau pour sortir les premiers, ceux qui arrachent les pages des livres à la bibliothèque pour ne pas que les autres les trouvent. Bon, il se secoue un peu et il sort de l'ENA au 16e rang, ce qui lui permet d'avoir accès à la Cour des comptes. Et donc, il va servir le général de Gaulle. Fini les mollasses de la 4e République. Le général a redressé la France. Et le général pour Chirac, c'est un mythe. Comme Vercingétorix, comme Jeanne d'Arc, Richelieu ou Clémenceau. Le servir est exaltant. Il voulait retourner en Algérie, et bien il y retourne. En juin 1959, les élèves de sa promo de l'ENA sont envoyés à Alger, en renfort administratif. Lui, normalement, n'est pas obligé d'y aller. Il a déjà fait son service là-bas, c'est suffisant. Mais il y va, bien sûr. Et cette fois, il embarque Bernadette et la petite Laurence. il est nommé directeur de cabinet du directeur de l'agriculture à Alger. Et ça n'est pas rien, parce que pour calmer les ardeurs des indépendantistes, le gouvernement vient de lancer un plan de la dernière chance. Le plan de Constantine, qui consiste à redistribuer une partie des terres des propriétaires coloniaux aux paysans musulmans. Ce plan, il veut y croire, Chirac. Et ils ne sont pas très nombreux, hein. Les autres ont compris que c'était trop tard. Mais lui, il rêve toujours d'un compromis, d'une cohabitation. Bien sûr que l'Algérie a droit à l'indépendance. Mais les pieds noirs et les harkis doivent rester. C'est chez eux. Et il sera déchiré, Chirac, sur la fin de la guerre d'Algérie. La raison lui commandera d'approuver le choix du général de Gaulle, l'indépendance. Mais sentimentalement, Chirac restera Algérie française. Nous avions engagé notre parole et notre honneur, en même temps que la parole et l'honneur de la France, en affirmant aux populations ralliées à notre cause que nous ne les abandonnerions pas. Ensuite est venu le moment où la mort dans l'âme, nous avons dû laisser à la merci de l'adversaire ce qui nous avait fait confiance et qui souvent s'était compromis en notre faveur. La mission de renfort administratif en Algérie est terminée et en avril 1960, Jacques Chirac, Bernadette et la petite Laurence rentrent à Paris. À 28 ans, le jeune énarque se retrouve auditeur à la Cour des comptes, où il se morfond pendant 2 ans. Et puis on lui propose la direction de Total au Canada. Sa mère va alors voir Bernadette.
Le Canada, Bernadette? Mais quelle est cette folie? Il doit rester en France, enfin. Débrouillez-vous pour qu'il reste en France.
Il dit qu'il y serait allé quand même. Mais pile à ce moment-là tombe une autre proposition beaucoup plus alléchante. Entrer au secrétariat général du gouvernement, au cœur du pouvoir, à l'ombre du général de Gaulle. Mais surtout bientôt, de Georges Pompidou, qu'il admire tout autant que le général, et même un peu plus. Au début, il assiste à des réunions, il rédige des comptes rendus, et puis assez vite, il entre au cabinet du Premier ministre, au rang le plus modeste, hein, de chargé de mission, en charge de l'aéronautique et de l'aménagement du territoire. Et un soir de décembre 1962, vers 18h, on le présente au Premier ministre du général de Gaulle, Georges Pompidou. Le bureau est à peine éclairé, Pompidou est plongé dans ses parapheurs.
Monsieur le Premier ministre, je voulais vous présenter Jacques Chirac. C'est un nouveau membre de votre cabinet, il vient de la Cour des comptes. Il est très bon, hein. J'espère bien qu'il est bon. S'il n'était pas très bon, vous ne l'auriez pas pris, n'est-ce pas?
Ce sera tout pour aujourd'hui. Et de toute façon, Chirac le dit, Pompidou est d'un naturel réservé, pudique même. Pas le genre à faire des confidences à ses collaborateurs, ni à nouer des liens intimes avec eux. Assez vite, au cabinet de Pompidou, Chirac hérite d'une réputation de bulldozer. Parce qu'il n'hésite pas à bousculer l'administration, qu'il trouve trop frileuse. Et en contrepartie, il devient suspect de ne jamais prendre le temps de réfléchir, de ne jamais douter, de ne jamais faire dans la nuance. Mais lui dit que c'est une question d'efficacité. Et c'est donc là, au cabinet de Pompidou, que Jacques Chirac fait son apprentissage du pouvoir. À Matignon, à cette époque-là, l'homme fort du cabinet s'appelle Olivier Guichard. Il règne sur une confrérie de barons dans laquelle il y a Michel Debray, Jacques Chaban-Delmas, Roger Frey et Jacques Faucard. Mais Chirac choisit de se placer dans l'ombre d'un autre, Pierre Juillet. Et il fait le bon choix. Car petit à petit, Pierre Juillet et son adjointe, Marie-France Garraud, gagnent la confiance de Pompidou et éclipsent Guichard. Chirac a eu du nez. Et c'est Pierre Juillet qui pousse Jacques Chirac à s'engager en politique, dans un bastion de gauche réputé imprenable, la Corrèze. Pompidou est sceptique.
Vous pouvez toujours essayer, Chirac. Allez-y, essayez.
Il commence en 1965 par se présenter au municipal de Sainte-Féréole, le berceau de la famille de sa mère. Au début, il ne sait même pas qu'il est candidat. C'est le sous-préfet qui le lui apprend.
Vous n'êtes pas au courant, monsieur Chirac? Ah, vous êtes sur la liste du Rassemblement républicain. Vous êtes même sûr d'être élu puisqu'il n'y a pas d'autre candidat.
Il appelle alors le maire.
Écoute, Jacques, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. J'en ai conclu que tu étais d'accord.
Il n'avait pas reçu la lettre. Et donc il est candidat et devient conseiller municipal de Sainte-Féréole. Deux ans plus tard, en vue des législatives de 1967, Pompidou l'envoie au combat, toujours en Corrèze, à Ussel. Et donc tous les vendredis, en fin d'après-midi, Jacques Chirac quitte Matignon dans sa vieille Peugeot 403. Il roule une bonne partie de la nuit. Il arrive à Ussel à l'aube. Il dort 2-3 heures dans un petit appartement HLM qu'il a loué près de la gare. Et ensuite, le HLM se transforme en permanence de campagne. Les gens font la queue dans l'escalier pour lui demander des services. Il les reçoit un par un. Et ensuite, souvent accompagné de Bernadette, il va sur le terrain, maison par maison, ferme par ferme. Il s'arrête dans chaque bistrot. Et il fait campagne avec un petit dictaphone dans la poche. Dès qu'on lui fait une demande, il enregistre un message pour ne pas oublier de s'en occuper dès son retour à Paris. Et ça fait la différence, forcément, face aux élus sortants qui sont habitués à être réélus sans faire campagne. Cela dit, Jacques Chirac a un atout. Il est au cabinet du Premier ministre. Et la Haute-Corrèze, à cette époque, est l'une des régions les plus sous-développées de France. Elle manque de tout, de routes, d'écoles, de téléphones. Et lui, au cabinet de Pompidou, il est bien placé pour obtenir des subventions. Il appelle un ministre et hop, le problème est résolu. Et ça plaît. Et puis Chirac a un autre atout. Il connaît bien Marcel Dassault, l'avionneur, qui est un ami de son père. Et je vous rappelle qu'au cabinet de Pompidou, il s'occupe entre autres d'aéronautique. Dassault a décidé d'aider le jeune Chirac à devenir député. Et pour ça, il achète, tout simplement, un hebdomadaire local qui s'appelle L'Essor du Limousin. Et il le transforme en journal de campagne. Et en échange, Dassault aimerait bien que Chirac devienne un jour secrétaire d'État à l'aviation civile. Donnant, donnant. Et puis il arrive à retourner en sa faveur deux ou trois caciques locaux qui sont pourtant de gauche. Henri Cueil, par exemple, c'est un radical qui a été chef du gouvernement à trois reprises sous la quatrième. Jacques Chirac ? Oh ben voilà un jeune homme qui mériterait d'être radical. C'est un vrai caméléon. Il séduit aussi Charles Spinasse, qui n'est pourtant pas du tout du camp gaulliste. Il a créé la SFIO avec Léon Blum. Et pourtant, il soutient Chirac. Écoutez, j'ai reçu un grand jeune homme aux manières simples, hein, aisées, directes. Il m'a exposé ce qu'il était, ce qu'il voulait. Il a les idées claires. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le mettre au service de la Corrèze et de la France. Un socialiste. Mais sa grande chance, c'est d'avoir face à lui un socialiste parachuté, Robert Mitterrand, le frère de François, un industriel qui ne connaît rien au monde rural, et qui, quand il entre dans un bistrot... Je voudrais un thé, s'il vous plaît. Un thé, en Corrèze. Le 12 mars 1967, Jacques Chirac est élu, de justesse, mais élu tout de même, député de Corrèze. De toute la majorité gaulliste, il est le seul à conquérir un siège. Le gouvernement Pompidou n'a de majorité que d'un siège, celui de Jacques Chirac. Quelques jours plus tard, le député Chirac est attablé dans une brasserie de Limoges. Il est en train de lire La Montagne, qui parle de sa victoire. Il a commandé une bonne choucroute.
On demande Monsieur Chirac au téléphone.
Bonjour, je suis Jacques Chirac. C'est pour vous, monsieur, c'est le général de Gaulle.
Le général veut le voir demain à 11h. À 11h pétante, Jacques Chirac, jeune député de Corrèze, pénètre dans le bureau du général de Gaulle à l'Élysée. Pas si impressionné que ça, même si c'est la première fois qu'il le rencontre en tête à tête. Il faut dire que depuis 5 ans qu'il est au cabinet de Pompidou, il l'a croisé des dizaines de fois, mais de loin. Bref, il n'a pas peur. Il n'est pas intimidé. Comment l'aborder? Comment lui parler? Chirac a eu tout le temps d'y réfléchir dans l'antichambre. Il n'a trouvé qu'une seule issue. Le respect, l'admiration. Le personnage tient une place immense dans l'histoire, monumentale. Il ne peut se permettre aucune familiarité, aucune. Et du coup, il est un peu surpris de trouver un homme accessible, courtois, bienveillant, simple.
Asseyez-vous, Chirac, je vous en prie.
Le général a une fiche posée sur son bureau. Il sait déjà beaucoup de choses sur ce grand jeune homme qui est en face de lui.
Ainsi donc, vous venez d'être élu député de Corrèze. Et vous étiez déjà conseiller municipal de Sainte-Féréole, je crois. D'où vient votre mère, n'est-ce pas?
Il sait tout. Et s'il l'a fait venir, ça n'est pas pour parler de politique en général.
Parlez-moi de votre circonscription, monsieur Chirac. On me dit que vous avez obtenu le soutien d'un socialiste.
C'est de ça qu'il veut parler. De la politique locale, des particularités de la Corrèze.
Et comment voyez-vous, monsieur Chirac, l'évolution de notre agriculture en Corrèze?
Le général s'intéresse aux détails. Il est curieux de tout. Mais en vérité, si le général a fait venir le jeune député Chirac, c'est aussi parce qu'il est question de remanier le gouvernement. Et qui dit remanier, dit en général rajeunir. Un mois plus tard, Jacques Chirac croise le Premier ministre Georges Pompidou dans le grand escalier de Matignon. Il rentre tout juste de l'Élysée où il est allé proposer au général la liste de son nouveau gouvernement.
Ah, Chirac, vous ne direz rien, mais je vous ai réservé un strapontin dans mon gouvernement.
Pompidou laisse passer un petit silence, et puis en souriant.
Et surtout, Chirac, souvenez-vous toujours de ne jamais vous prendre pour un ministre. Jamais.
Et le 7 avril 1967...
« Ministre d'État chargé des affaires culturelles, Monsieur André Malraux. Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Maurice Couve de Murville. Ministre des Armées, Monsieur Pierre Messmer. »
Patience, le Premier ministre l'a prévenu, ça n'est qu'un strapontin.
« Secrétaire d'État chargé des problèmes de l'emploi, Monsieur Jacques Chirac. Je vous remercie. »
Chirac est le dernier de la liste. Quand son beau-père, le père de Bernadette, apprend la nouvelle, il dit à sa fille
« Vraiment, Bernadette? Votre mari ne sait pas ce qu'il veut. Enfin, il vient à peine de se faire élire député et voilà qu'il démissionne pour faire autre chose. »
Et c'est vrai. Il n'a pas eu le temps d'aller plus de deux fois à l'Assemblée nationale. Tout est allé beaucoup plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer. La carrière politique de Jacques Chirac est lancée. Il va s'y prendre à plusieurs fois, mais il ira jusqu'à la plus haute marche. Mais ça... c'est une autre histoire.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Voici donc pour cet épisode, deuxième épisode d'une collection que je suis en train de créer, très modestement, d'extraits de la vie de Jacques Chirac tirés de ses passionnantes mémoires publiées chez Nil en 2009. Et là, en l'occurrence, du tome 1 de ses mémoires. Vous êtes l'éditeur des mémoires de Jacques Chirac, Jean-Luc Barré. Merci d'être là pour les débriefer. D'ailleurs, comment est-ce que ça s'est passé? Il a tout écrit lui-même ou alors il est venu, vous avez parlé longtemps et vous avez ensemble tiré un texte qui constitue ses mémoires?
Nous avons en effet tiré le livre d'entretien qui ont duré 2-3 ans à peu près. C'est pas un homme de l'écrit. Donc, il n'a pas cherché d'ailleurs à poser, il a inscrit mon nom, il a tenu absolument ce que mon nom figure, en rigolant d'ailleurs, souvent il me disait, vous savez, vous devriez le publier sous votre nom, ça aurait plus de succès. Mais il n'était pas d'ailleurs convaincu de devoir écrire ses mémoires non plus, mais il s'est pris au jeu, et donc c'est devenu un rituel, des entretiens de plus en plus intenses, où il se livrait beaucoup, mais même s'il ne se livre pas facilement, et puis... Le moment venu, j'ai remis en forme l'ensemble de ces entretiens, en complétant ici et là par des documents.
Alors si on reprend l'histoire au début, Jean-Luc Barré, il y a cet épisode du passage du concours de l'ENA et son incapacité à dire ce qu'était Bayreuth. Alors je le dis au passage pour ceux qui seraient à l'autre bout, qui disent, mais c'est quoi Bayreuth? C'est un festival, enfin c'est une ville d'Allemagne dans laquelle se déroule tous les ans un festival qui rend hommage à Wagner et uniquement à Wagner. Et puis encore plus étonnant, le serment d'Hippocrite au lieu d'Hippocrate. Il vous livre ses anecdotes pour qu'elles soient inscrites dans ses mémoires. Il a un dessin, j'imagine, quand il vous les donne. C'est-à-dire, il sait que pour une partie de la classe politique, il passe pour un inculte. Et il donne du grain à moudre.
Oui, il y a une forme d'autodérision chez lui. D'abord, il entretient ça, il dit toujours qu'il n'est pas doué, qu'il n'est pas très intelligent, y compris d'ailleurs à la fin de sa carrière, quand je l'ai connu, de sa carrière politique. Donc il sait très bien que dans le regard des autres, il est un peu ça. Il affecte parfois de ne pas avoir de culture, là je crois qu'il s'agit d'une gaffe, mais il aurait pu simplement ne pas jamais me la raconter, cette histoire. Quelqu'un d'autre aurait cherché à se valoriser. Chirac cherche jamais à se valoriser. D'abord, c'est un homme à qui j'ai rarement entendu dire « je ». C'est un mot qu'il prononce. Voilà, il dit nous. Donc, il a pas un ego, il n'a pas d'ego en réalité. De ce point de vue-là, il a une culture très chinoise. Enfin, c'est l'être en tant que tel existe, bien sûr, mais la personne en tant que telle, elle se confond un peu dans la masse. Et donc, il a un petit peu cette approche-là. Et il me raconte cette histoire. D'abord, il a beaucoup d'humour.
Il n'a rien contre l'autocritique, en fait.
Non, au contraire. Mais non, mais il en rajoute même. Il en fait trop. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, beaucoup de gens s'acharnent à dire, après Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui s'est chargé le premier de le dire, en le traitant de roi feignant, que Chirac n'avait rien fait, ce qui est évidemment pas juste, mais c'est en partie lié au fait que lui-même n'a jamais cherché à communiquer beaucoup sur son action. Il a un sens de la relativité qui est quand même très étonnant, parfois un peu à son détriment. Et dans ses mémoires, ce qui était très sympathique, c'est que précisément, à aucun moment, il n'a cherché à en rajouter pour dire, voilà, d'ailleurs, lui-même considère qu'il n'a jamais, il ne restera pas dans l'histoire, ce qui est peut-être pas exact. Je pense que le musée du Quai Branly le laissera une trace, mais il est conscient du fait qu'il y a eu De Gaulle, sans doute Mitterrand. Il avait beaucoup d'admiration pour Mitterrand et que lui-même finalement ne laissera sans doute pas de trace. Alors en même temps, c'est un homme de culture, mais d'une certaine culture, voilà.
Un peu sélective en vérité, parce que c'est très étonnant. Ça n'est pas dans l'épisode d'aujourd'hui, mais j'ai déjà commencé à écrire un autre épisode. Et dans le prochain épisode, il se retrouve premier ministre de Giscard d'Estaing et il a une incroyable conversation avec Deng Xiaoping. Et il est capable devant Deng Xiaoping, qui à l'époque est vice-premier ministre de la République populaire de Chine, il est capable de lui dire que à la fin du XIVe siècle en Chine, il y a eu 3 empereurs. Et Deng Xiaoping lui dit non, il y en a eu 2. Il dit non, 3 vérifiés. Et il avait raison. Et à côté de ça, il ne sait pas ce qu'est Bayreuth. C'est ça qui est...
Oui, mais en même temps, il a une culture qui est d'abord très originale, mais qui est très vaste. Il connaît admirablement l'histoire de l'humanité. Moi, il m'a un jour montré des fiches qu'il avait lui-même confectionnées, où il racontait l'histoire de l'humanité depuis les origines, depuis les premiers temps de l'écriture, etc. Donc il a une vue qui n'est pas en effet totalement occidentale, qui n'est pas seulement française, qui est plus mondiale finalement, et très, très universelle. C'est ça qui est très original. Et vous avez parlé de l'Algérie tout à l'heure, il faut bien voir que dans l'approche qu'il aura du peuple algérien, il connaît ces peuples-là, il connaît cette religion, il connaît cette mentalité. Ça fait partie de sa culture. Et pour un homme qui, à un moment donné, va être président de la République, évidemment, il vaut mieux connaître la Russie, le monde arabe, la Chine, l'Amérique latine, etc. Et tant bien entendu qu'il connaît très bien la France. Mais il a une culture, en effet, qui est très singulière. Vous savez, il l'a cachée très longtemps. Très longtemps, non pas qu'il en avait honte, mais il disait, au fond, ils comprendront pas. Ils vont pas comprendre, ils vont penser... Bah, et donc, il se cachait de collectionner des œuvres d'art, etc. Jusqu'au jour, effectivement, c'est apparu. Et subitement, ça a donné son sens à beaucoup de choses, dans son action et dans son personnage.
Alors, la guerre d'Algérie, justement, j'avoue, je le dis avec beaucoup de franchise, que je ne savais pas que Chirac avait combattu en Algérie. Il n'en a en vérité que très peu parlé. Je n'ai pas souvenir, moi qui ai suivi la totalité de sa carrière politique, de l'avoir jamais entendu dire « quand j'étais en Algérie, quand j'y étais ». Ce dont se sont vantés d'autres hommes politiques, comme Jean-Marie Le Pen par exemple, qui ont mis l'Algérie en avant. Lui, il n'a jamais cherché à mettre l'Algérie en avant.
Non, ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'a pas le souci de mettre les choses en avant. Est-ce que c'est lié au fait qu'à un moment donné, il y a eu chez lui un temps d'hésitation? Dans le deuxième séjour qu'il fait, en effet, où il est ballotté, c'est clair, il est tiraillé, lui qui est plutôt quand même un homme de gauche. Je rappelle qu'il était très proche de Michel Rocard au temps de Sciences Po, qu'il était même pacifiste, admirateur de Gandhi, qu'il n'est pas du tout un homme de droite, qu'il est à peine gaulliste d'ailleurs à ce moment-là. C'est pas tout à fait normal, lui qui a en plus cette approche des peuples, de ces peuples d'outre-mer, etc., des peuples méditerranéens, ce n'est pas normal qu'il soit aussi ballotté. Mais il l'est parce qu'il est aussi un sentimental, parce qu'il rencontre, il a des amis pieds noirs, et que le problème algérien, finalement, il ne l'appréhende pas d'un point de vue politique.
Donc, il veut y aller quand même.
Il veut y aller.
Il veut y aller.
Alors ça, c'est le premier séjour.
Le premier séjour, il veut y aller. Il a l'opportunité de ne pas y aller. Beaucoup de jeunes hommes de sa génération auraient tout fait pour pas y aller. Lui, il veut y aller. Il va pas à Berlin au chaud, à couvrir les filles. Il va en Algérie, dans le Djebel, en montagne.
Voilà. Il y a chez Chirac un destin un peu forcé, finalement. Ce qui est très étrange, c'est quand on voit tout ce parcours du début. On a l'impression que beaucoup de gens décident pour lui, qu'il veut partir, aux États-Unis, puis on le fait revenir, il part sur ce cargo très jeune, et puis il doit revenir. Et peut-être le moment où il a choisi quelque chose, c'est l'armée. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'aventure, et il a envie d'y aller, il a envie de se battre, d'abord parce qu'il a envie, il en a marre de ce travail administratif qui l'ennuie profondément, il n'est pas du tout fait pour ça. Non pas qu'il soit un guerrier dans l'âme, mais l'aventure, l'expérience humaine de la guerre, finalement, ça va être ça. Chirac est un guerrier pacifique, c'est pas un homme qui aime tuer. Il ne tuera pas, en l'occurrence. Et ce rôle-là, je pense que c'est un des rôles qu'il a le plus aimé dans sa vie. D'être à la tête de ses troupes. Et il m'a dit un jour, c'est peut-être le moment où j'ai senti que j'avais été le plus utile, finalement, de toute ma vie. Non pas qu'il n'y ait eu pas d'autres moments. Mais l'expérience humaine, le commandement, le respect qu'il impose d' ailleurs à ses troupes, vis-à-vis de l'habitant, c'est très intéressant ça. Il m'a parlé de cette cravache qu'il avait pour faire que quand les soldats qu'il dirigeait, qu'il commandait allaient dans les villages, qu'ils ne se précipitent pas pour aller violer des filles, mal se comporter avec l'habitant, ouais. Et les femmes en particulier. Donc il y a un respect profond qu'il impose. C'est un grand moment de sa vie. Et un grand regret, je crois, de ne pas avoir pu devenir un soldat, si bien d'ailleurs qu'il a toujours entretenu avec les militaires des rapports extrêmement proches.
Il aurait préféré un compromis. Il aurait préféré que les pieds noirs puissent rester dans une Algérie indépendante.
Mais qui n'en a pas rêvé? C'était pas non plus, même Camus le premier en a rêvé. Donc je veux dire, c'était pas... il faut bien voir ce qui a fait que ça n'a pas pu se faire, hein, en l'occurrence. C'est que les pieds noirs ne sont pas totalement... ont une part de responsabilité comme d'autres, naturellement. Et puis il y a ces hésitations très longues. Et puis il y a le désir du général de Gaulle de régler le problème. Mais quand on est sur place, à Alger en 1960... Je pense qu'on est ballotté, qu'on est là au plus près de toutes les causes, finalement. Il n'est pas contre les Algériens, il est même pour l'indépendance de l'Algérie. Mais il sent bien, par exemple, le problème des harkis va se poser de manière tragique, et il sent bien en plus que le désespoir des pieds noirs. Il est à un moment où les pieds noirs sont acculés. Donc lui, qui est plutôt un humaniste, et qui n'a pas une vision extrêmement définitive et définie du problème algérien, il est tiraillé.
Alors, Pompidou, on est surpris, parce qu'au fond, Chirac incarne le gaullisme des années 70, 80 et 90, ce qu'il reste du gaullisme. Mais en vérité, ce qu'on découvre dans ses mémoires, c'est que sa vraie passion, son vrai modèle, l'homme qu'il a vraiment vénéré, c'est Georges Pompidou. Et on se demande à un certain moment, il a donné à De Gaulle une place à part, ce qui le dispense de devoir les comparer. Mais sa passion, c'est Pompidou, quoi.
Oui, un jour, je me souviens, j'étais dans son bureau et je ne voyais pas la photo du général de Gaulle et je voyais surtout des photos de Pompidou. Il y avait une photo de De Gaulle, mais il y avait surtout une photo de Pompidou qui était mise en avant. Et il m'a dit, au fond, Pompidou, c'est un peu mon De Gaulle. Vous voyez, c'était un peu mon De Gaulle. C'est-à-dire qu'au fond, non pas que De Gaulle passait dans son idée en dessous de Pompidou, enfin, évidemment, mais il y avait une telle admiration chez Chirac pour De Gaulle, que le personnage en quelque sorte était inaccessible.
Oui, il était partagé par d'autres, tandis que Pompidou d'une certaine manière...
Mais inaccessible aussi, le modèle, le grand modèle historique. Ouais. Et puis d'abord, le gaullisme de Jacques Chirac a mis un certain temps à se constituer.
L'Algérie est restée comme une arête.
Exactement,
aussi.
Exactement. Moi, je pense qu'il a tout à fait accepté l'idée que, après, les choses sont faites, et puis voilà, même s'il y a eu un regret de sa part, que les choses se soient faites aussi tragiquement, mais là aussi, tout le monde a regretté que la guerre d'Algérie se termine comme ça, mais il devient progressivement gaulliste, et son gaullisme passe par le pompidolisme, si je puis dire. Oui, alors c'est arrivé à beaucoup de gens à ce moment-là, quand même. Toute une partie de la classe politique française, des gaullistes, vont progressivement se détacher du général pour devenir pompidolien. Enfin, il y a l'épisode de 68 qui le révèle.
Qu'est-ce qu'il aime chez Pompidou? Son contact avec le peuple, écrit-il en gros.
Oui, il y a quelque chose de très, très charnel, de très paysan, de très sensuel, de très, très ancré dans la terre. Donc ça, c'est de la province. C'est ça qui rapproche finalement. D'abord, les deux régions, les deux départements sont très proches, la Corrèze, le Cantal. Donc ils ont beaucoup en commun. En même temps, c'est quand même un grand homme d'État. C'est un modèle d'homme d'État. C'est un homme très solitaire, très assez distant, d'ailleurs, y compris avec Chirac, qui dira qu'il n'a aucune intimité avec lui. Ouais. Voilà. Pas d'intimité, mais une grande vénération, quand même, une grande passion. C'est comme s'il retrouvait un père, finalement, à travers Pompidou. Un père un peu, encore une fois, parfois un peu, qui le rabroue, mais en même temps qui découvre très vite l'homme efficace qu'est Chirac, donc il va beaucoup s'appuyer sur lui. Je pense que c'est le sens de l'État qu'il retrouve chez Pompidou. Il est près de lui, en effet, il est à son service, ça compte beaucoup, et il a la conscience de servir un homme exceptionnel que le général de Gaulle, d'ailleurs, a choisi lui-même en 1958 ou 59 comme Premier ministre, donc c'est pas rien.
La campagne législative à Ussel, passionnant parce que se met en place, dès cette première candidature, on évacue Sainte-Féréole, qui est une candidature qu'il ne connaissait même pas, il est élu à l'insu de son plein gré, mais à Ussel, il met en place un système, c'est un appartement HLM près de la gare, les gens dans l'escalier, qui viennent lui demander des services, il enregistre sur son dictaphone qu'il faut qu'il réponde à leurs interrogations, il mobilise le gouvernement au secrétariat général duquel il travaille, pour rendre service aux habitants d'Ussel, c'est le système Chirac dans toute sa splendeur. C'est le Plassou.
C'est déjà
qui
ça.
Qui commence.
Oui. C'est le Plassou. Alors c'est d'autant plus facile pour lui que, encore une fois, on dit qu'il est un caméléon. Je me souviens que cette formule avait un peu agacé d'ailleurs Bernadette Chirac, mais il est. On avait parlé de ça dans ses mémoires. Je suis pas sûr que ça ait subsisté dans sa bouche à lui, mais Queuil le dit en effet, et Queuil avait identifié assez vite un homme d'abord du terroir, pour rappeler qu'il n'est pas un parachuté, contrairement à Robert Mitterrand, qui sera son adversaire. Il est du terroir, il y a eu Louis Chirac, il y a eu toute une famille, donc on sait qu'il est radical. En tout cas, on sait que sa famille est radicale. Et ce caméléon, finalement, va donner des gages à tout le monde. Je pense qu'il aurait même pu dire qu'il n'était pas éloigné des communistes. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il a distribué l'humanité dans sa jeunesse. Donc tout ça, on le sait. On sait que Chirac, il n'est pas fixé. Et être radical, de ce point de vue-là, ça aide à ne pas se fixer, d'une certaine manière. Donc, il va être très vite adoubé. D'abord, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a cette espèce de charisme incroyable, il y a ce mec très beau qui plaît à toutes les femmes, et qui frappe à toutes les portes sans discrimination. C'est-à-dire qu'une chose importante chez lui, c'est que, et ça va continuer, c'est-à-dire qu'il va voir, y compris les familles de ses adversaires, de ceux dont il pense qu'ils ne voteront pas pour lui, en l'occurrence les communistes, et certains socialistes. Et il rallie progressivement à Ussel, Dr Belcourt, enfin il réussit comme ça, avec une campagne inouïe. Alors il mange beaucoup, il boit beaucoup, enfin il s'adapte.
Ne commande pas de thé dans les bistrots.
Non. Ça c'est la choucroute et c'est la bière et c'est tout cela. Et il s'adapte à un milieu qu'il connaît bien en plus. Parce qu'il
Mais
est
il ne se force pas d'ailleurs
hein, non.
À manger de la choucroute
non.
et à boire de la
non,
bière.
Non,
ça n'est pas pour faire.
Non, absolument pas. C'est pas un homme qui... Il n'est pas mondain, même s'il a... Je l'ai toujours trouvé énormément de classe, mais il n'a jamais été mondain. Vous savez, il disait toujours qu'il n'aimait pas le soir aller chez les grands bourgeois parce qu'il disait je préfère être assis chez moi que debout chez les autres. Mmh. Et c'est resté un peu ça. Il aime le peuple, il aime ces paysans de Corrèze qu'il connaît bien, il est chez lui, tout simplement.
Marcel Dassault, c'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, ça se finirait mal, une histoire comme ça. Ça s'appelle de la compromission, c'est-à-dire Dassault finance un député en espérant qu'il devienne secrétaire d'État à l'aviation civile. Bon,
oui, enfin,
c'est moyen.
Ça, c'est beaucoup fait. Ça,
c'est
ça,
une époque.
Je ne sais pas si ça se fait encore, mais vraisemblablement non.
Non, certainement mais... pas, aujourd'hui.
Non, ça ne paraît pas possible. Enfin, y a d'autres systèmes qui le permettent. Non, mais bon, voilà, il se trouve que Dassault, c'est l'ami de son père. Il adore Chirac. Chirac, d'ailleurs, me disait souvent que, au fond, il était pour Dassault le fils qu'il aurait aimé avoir, ce qui était gentil pour les enfants de Dassault,
oui,
passage.
Enfin, ils se sont tous tirés le tapis sous le pied. Hein,
voilà, voilà.
Fils depuis trois générations. Avait... Donc, il a dit du mal de Serge, qui a dit du mal de ses fils à lui.
Alors voilà, donc il y avait une vraie filiation quoi, entre ces deux hommes. Il le soutient très ouvertement. Il va jusqu'à acheter le journal. Bon, moi, je trouve ça assez romanesque, finalement. Il y a un côté très romanesque, parce que c'est pas seulement la question de l'argent. C'est qu'il veut que ce garçon qu'il aime ait un avenir et une destinée. Et il va l'aider, en effet, un petit intéressement... un petit intérêt qui consiste à ce qu'il devienne, en même temps, qu'il devienne responsable d'aviation civile. Chirac, d'ailleurs, s'est occupé de Concorde à ce moment-là, du développement du Concorde, mais c'était un peu indépendant de Dassault. Voilà, donc je veux dire simplement que ça fait partie... Vous savez, Chirac, par rapport à tout ça, était très décontracté, finalement. Même dans l'histoire des emplois fictifs, il disait, mais c'est quoi les emplois fictifs? Enfin, tout ça ne lui paraissait pas très grave, parce que ce qui comptait, c'était finalement l'entraide, aider les autres... leur trouver un emploi, etc. Donc, il y a, ça se passe un peu comme ça avec Dassault. Ça se passe un peu comme ça, très simplement, finalement.
Autre chose que l'on perçoit à travers le récit de ces quelques années, c'est qu'il n'avait pas une sainte passion pour l'administration.
Non. Non, il déteste ça. Ce qu'il aime, c'est l'action, et plus que l'action encore, l'aventure. C'est le terrain, c'est le contact humain, il pense que les problèmes se règlent comme ça. Et alors, il est tout de même un fonctionnaire, c'est un homme qui aura travaillé beaucoup toute sa vie, mais il n'aime pas la paperasse, voilà. Il n'aime pas ça, il aime la rapidité de la décision, parfois la rapidité de l'exécution aussi. On l'a souvent dit ses décisions parfois étaient un peu lentes à prendre, mais en même temps, c'est un homme qui peut être très très rapide et qui n'aime pas tout ce qui va le gêner, l'entraver.
Merci beaucoup Jean-Luc Barré d'avoir débriefé pour nous ce deuxième épisode de la vie de Jacques Chirac. Donc j'ai déjà craché le morceau, j'ai déjà écrit le troisième. Vous serez là pour le débriefer, le troisième épisode ?
Tout à fait d'accord.
Merci Jean-Luc. Je serai là demain à 14h, 2h de l'après-midi. Que dis-je, 14h, personne ne va jamais comprendre de quoi il s'agit. 2h, tout le monde sait ce que c'est. Je serai là 2h pour vous raconter une autre histoire. À demain.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.